travail que je fais ou les sons que vous n'entendez pas pour l'instant, si c'est le cas, sont des sons que vous avez tous entendus lorsque vous étiez enfant et bébé, puisque c'est le premier mode d'écoute. Donc vous avez entendu comme ça avant d'entendre comme vous entendez aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'adulte. L'écoute est culturelle. Et donc l'enfant perd la capacité d'analyser les fréquences du son, parce que le son devient sens. Donc on passe du sensoriel au culturel. On donne des noms au son, qui deviennent des objets sonores. Donc on a les bruits, les sons du langage et les sons musicaux. Et on les entend en tant que tels. Donc ben, vous allez voir que quand on chante des voyelles, en fait, ce sont des accords d'harmonie, mais que notre cerveau nous livre la mémoire voyelle, donc le langage, donc le filtre du langage, on perçoit à travers le langage. Donc le travail, c'est ramener votre cœur, votre oreille et votre cerveau vers la capacité d'entendre à nouveau les fréquences qui constituent les voyelles, puisqu'on est dans un contexte de chant, qu'on chante des textes avec des voyelles, et que le son est dans la voyelle, essentiellement. Donc, ça se symbolise par le dessin qu'il a. Le point, c'est la perception d'adulte et la perception culturelle, c'est l'objet sonore. Sur les partitions, vous avez des points sur les lignes, c'est un point égale un son égale une note égale une hauteur, c'est toujours une information à part entière qui n'est pas ou peu disséquée par notre cerveau et qu'on perçoit vraiment comme une globalité. Et quand on change la note, et bien à nouveau, c'est un point, un son, une note, une hauteur. C'est toujours une information à part entière. Et plus vous avez fait de musique, plus ça marche comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes passé par les conservatoires, vous entendez encore plus comme ça. Si vous avez... Dans les stages, statistiquement, les gens qui entendent le moins, pour qui il faut plus de temps pour entendre, sont les gens qui sont passés par le parcours classique. Les gens qui sont passés par le parcours des chants du monde entendent mieux, toujours. Et ceux qui sont passés par les traditions orales et ceux qui n'ont jamais fait de musique entendent encore mieux. Ce qui fait que dans les stages longue durée, entre autres les stages d'été qui durent une semaine, je mélange les débutants et les professionnels volontairement. J'utilise les compétences de chacun, puisqu'il y en a qui peuvent mémoriser, il y en a qui peuvent lire. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Donc, voilà. On tire le meilleur de tout ça et que ça se mette à marcher en utilisant les compétences de chacun et non pas les différences et les oppositions. Et donc, le travail de base, c'est faire passer votre oreille de ce mode de perception à celui-ci. Ça, c'est l'écoute du son. Et il y a dans ce dessin-là ce que j'appelle les trois espaces du son, donc la source, qui est la note ou le phonème, ou la voyelle, on va dire, l'espace de résonance qui est autour, qui va vous paraître... Quand vous allez commencer à l'entendre, plus grave que ce que vous entendiez d'habitude. En fait, ce n'est pas plus grave. Simplement, on l'entend à part entière et séparé du timbre, donc on entend autre chose. Et au-dessus, l'espace du timbre, que moi j'appelle la matière sonore. C'est vraiment, plus j'entends, plus je fais ce travail-là. Pour moi, c'est comme de la sculpture, de la peinture, ou je ne sais quoi. C'est de l'impressionnisme. Mais en même temps, c'est de la musique. Mais c'est une matière qu'on sculpte. Et quand vous chantez une partition, vous mettez en forme une matière sonore, avec une forme particulière qui appartient à une tradition, une culture, une forme musicale. Particulière. Donc là, on a les fréquences supérieures qu'on appelle harmoniques dans le milieu musical, que les acousticiens appellent partielles, c'est-à-dire les parties du son, qui peuvent être harmoniques ou inharmoniques, mais ça concerne les acousticiens, enfin peu importe. Et la différence, c'est que ça, c'est une seule hauteur pour votre oreille. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne suis pas transparent, je sais. Et puis, si je remets comme ça, vous allez avoir le soleil dessous. Là, c'est mieux. Tout le monde voit à peu près. Et donc ça, c'est une seule hauteur pour votre cerveau. Ça, c'est la hauteur de la note plus d'autres hauteurs à l'intérieur du son. Donc écouter le son ou écouter la musique, ce n'est pas la même chose. Et l'intérêt de ce travail, c'est de vous amener à entendre les deux en même temps. Est-ce qu'on peut entendre à la fois ce qui se passe dans le son de manière précise, suffisamment précise pour pouvoir l'utiliser, même si on n'entend jamais tout, et moi-même, j'entends jamais tout. Et dans le discours musical, ça va trop vite, donc de toute façon, on n'entend pas tout. Mais les exercices qu'on va faire, qui sont des exercices d'écoute, sont comme un grand, grand ralenti, ou une espèce d'arrêt sur image qui va donner du temps à votre cerveau et à vos oreilles pour entendre les informations qu'on n'a pas le temps d'entendre parce que le discours musical est trop rapide ou parce qu'on est dans les mémoires musicales, langagières, etc., etc. Donc on va sortir du musical. Au début, on ne sera pas dans le musical. Vous faites un travail sur l'unisson ou l'octave. Donc il n'y a pas de changement de note. Il n'y a qu'une note, si on peut dire, les deux notes de l'octave. Et c'est parce qu'il n'y a pas de changement sur le plan musical qu'on peut entendre le changement dans le plan du son. Jusqu'à ce que vous les entendiez, quand vous commencerez à les entendre, on va les remettre en perspective avec, à nouveau, le musical en tant que tel, sous différentes formes, entre autres sous l'aspect de la globalité du son du cœur, et du travail d'improvisation sur des accords, sur l'idée du pupitre, donc la monodie, comment on entend le son et en quoi ça nous permet de rendre le pupitre homogène, et après sur le rapport du pupitre dans la polyphonie, et on terminera par un chant ou deux, votre répertoire, pour qu'on aille jusqu'au bout, que vous ayez une vue d'ensemble de ce travail qui, sur 3 heures, c'est un peu un pari un peu fou de vous faire tout faire, mais quand même,
quasiment presque tout. Enfin, j'ai pas fait tous les exercices que je pourrais faire, mais on a fait le parcours principal et avec son aboutissement. Quand vous chantez des voyelles, donc là si je dessine un O et un I, et qu'on représente ça, et que par exemple si vous avez un ordinateur ou même votre smartphone et que vous téléchargez un logiciel qui s'appelle Sonagram, donc qui dessine les fréquences de votre voix quand vous chantez des voyelles, ce serait sous forme de traits superposés. Sur le logiciel, on en verra une infinité, mais on n'en verrait que quelques-uns qui seraient les plus brillants, qui seraient les fréquences, donc les harmoniques, qui sont dans ce qu'on appelle les formants, ce que les profs de chant, les linguistes et les acousticiens aussi appellent les formants, c'est-à-dire les harmoniques principales, ou les fréquences principales qui déterminent la nature du son, qui nous permettent de différencier un O d'un A et un saxophone d'une clarinette. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce sont des organisations. En fait, l'harmonique est un son pur, c'est l'information la plus petite qui existe. C'est juste une sinusoïde. Et dès qu'on commence à travailler sur d'autres sons, ce sont toujours des mélanges et des agglomérats de sons, de partiels de sons, de parties de sons. Il peut y en avoir des quantités et des quantités et des quantités, puisque quand on regarde sur l'ordinateur, l'écran est plein et on n'en entend qu'une infime partie. Et ça va jusqu'au-delà de l'audible, au-delà même de ce que mesure la machine. Et donc, il y en a plein, mais on va travailler sur les principaux, sur ce qu'on peut entendre en tout cas. Ensuite, de quoi ? Il y a deux directions dans ce travail. Je n'ai pas travaillé sur l'individuel ce matin parce que je n'ai absolument pas eu le temps et on ne le fera pas cet après-midi, mais je vous en parle quand même. C'est de faire travailler ce mécanisme qui est celui avec lequel vous avez appris à parler et chanter quand vous étiez bébé, en sachant que le bébé chantonne avant de parler. Il y a une phase qui s'appelle le babil, c'est le jeu avec le son. Si vous avez eu des bébés, peut-être que vous savez. Qu'il parle parce qu'il est dans un milieu social et que le son devient sens, sinon il ne parlerait jamais. Hein. Les enfants sauvages, on connaît aussi. Et donc, il y a d'abord un jeu avec le propre son de sa voix, et donc l'enfant entend toutes les fréquences correctement, ce qui veut dire que l'enfant peut apprendre potentiellement toutes les langues de la Terre à la naissance. Et que le fait qu'il apprenne sa langue maternelle, donc qu'ils soient en rapport avec un univers langagier qui a du sens, et du son particulier, des fréquences particulières, va déjà mettre des limites à son écoute, va spécialiser l'oreille. Donc le fait qu'un enfant qui apprend 2, 3, 4, 5 ou 5 langues à la naissance, c'est comme s'il n'en apprenait qu'une, il peut le faire, alors que si on le fait 10 ans après, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ça a été vérifié en neurosciences il y a pas plus de 6 mois, c'est tout à fait récent quand même. On est sûr aujourd'hui. Plusieurs langues pour un bébé, c'est comme une seule. Et si on fait une langue à la naissance et qu'on en refait une autre 10 ans après, c'est deux, et c'est pas les mêmes régions du cerveau qui fonctionnent. Le cerveau recommence complètement l'apprentissage. Du coup, je sais plus ce que je disais avant, voilà. Parce que c'est que d'être trop baba. Le babil. Donc oui, donc vous avez entendu ces sons-là. Donc ce mécanisme qui vous a permis d'apprendre, qui est purement auditif, qui est audio-vocal, s'appelle la boucle audio-phonatoire, audio-vocal, audio-musculo-vocal, audio-corporo-vocal, etc., etc. C'est-à-dire la relation entre l'oreille et la voix. Et c'est un système de retour. Oui, la boucle audio-phonatoire, la relation entre l'oreille et la voix, c'est un système de retour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà chanté sur scène avec des enceintes qu'on appelle de retour, des haut-parleurs ? Non ? Oui. Qu'est-ce qui se passe le jour où le retour n'est pas assez fort ? Oui, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Spontanément, même si...
On essaie de chanter plus fort.
Voilà, on chante plus fort. C'est-à-dire qu'on est leurré par le retour. Le cerveau est leurré par le retour. En fait, on chante suffisamment fort, mais on ne s'entend pas suffisamment fort. Donc c'est un problème de retour et d'audition. Donc on est leurré par le cerveau, et par le retour, du moins. Le cerveau est leurré par le retour, et le cerveau envoie l'information. Tu ne t'entends pas assez fort. Tu ne t'entends pas, ça veut dire que tu ne chantes pas assez fort. Dans ce cas-là, on pousse, on se fatigue, voire on se met à chanter faux, etc. Et par contre, le jour où le retour est super bien réglé, ce qui peut arriver, et qu'est-ce qui se passe en termes de confort ?
On est bien.
On est super confortable. On peut être quasiment comme si on était porté par le retour. Donc si vous avez un retour qui fonctionne bien, l'important, c'est confortable. Si vous avez un retour qui fonctionne mal, et bien c'est la galère, on rame. On fait des efforts, on est un système compensatoire. Donc on a un excès de pression musculaire et on se fatigue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous notre retour, même si on n'est pas sur scène et qu'on chante pas. Quand vous écoutez votre voix, que vous parlez, si vous n'aviez pas le retour de votre voix autour de vous, vous ne pourriez même pas parler. Bouchez-vous les oreilles, vous verrez ce qui se passe. Vous allez crier comme un sourd, comme on dit. Hein. Le nombre de gens qui se mettent à hurler quand ils sont au téléphone. Et pourquoi ? Ben parce qu'ils sont en retour indirect, ils n'ont plus le retour en direct de leur voix, ils l'ont à travers le téléphone, ils ne s'entendent pas de la même façon. C'est pareil, ils s'entendent moins. Et donc, ils se mettent à parler plus fort. Donc, c'est purement, c'est psycho-audio. Psycho-auditif, on va dire. Donc, dans le travail qu'on va faire, en amenant votre cerveau à séparer les fréquences, on va augmenter le retour. On va vous allez vous donner petit à petit un retour plus important. À travers le fait d'entendre différemment et à travers le fait de faire sonner les voix ensemble dans le cœur. Le cœur crée un son commun qui lui-même crée un retour, que j'appelle la voûte ou la bulle, en général. Comme si vous chantiez dans une chapelle ou dans une église romane et que le bâtiment vous renvoyait votre voix. Tout le monde aime faire ça, bien sûr. Mais pourquoi on aime faire ça? Pourquoi on aime bien aller faire des sons dans les églises, même si on ne sait pas chanter?
Oui,
parce qu'on aime, c'est le retour, justement. Ben oui. Parce que le retour nous donne la sensation qu'on est plus grand et plus large. L'espace de résonance, l'espace du lieu devient en partie l'espace de notre corps et de notre voix et même en partie de notre corps. Et dans le cœur, il se passe ça. Quand vous faites sonner vraiment les voix ensemble, à un moment donné, vous pouvez avoir l'impression, au bout de quelques heures ou quelques jours de travail, que votre corps était comme plus large que d'habitude. C'est-à-dire que le corps se détend parce qu'il se syntonise, on pourrait dire, ou il s'ajuste avec l'espace sonore. Cet espace sonore, plus vous le pensez grand, plus vous le construisez grand et plus c'est confortable pour le corps. Toujours. Quand je suis en stage, sur des stages qui durent plus longtemps, au bout de quelques jours, j'ai envie de danser. Mon corps a envie de danser. Et mon cerveau a envie de chanter. De me faire chanter. C'est-à-dire, on met le cerveau dans le son et ça nous donne envie de faire de la musique. C'est assez. Ça se met en route. Ce sont vraiment des étapes de construction qui sont en rapport avec plein de mécanismes en nous qui s'enchaînent les uns par rapport aux autres. Et après, à la fin du stage, on n'a plus envie de partir. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, cette boucle audiophonatoire fonctionne de la manière suivante. Plus votre cerveau sépare les fréquences, là, tout est mélangé. Là, vous savez que vous avez deux espaces en vous, qui est l'espace de votre résonance et l'espace de votre timbre. Ça, c'est votre corps. Ça, c'est votre voix à l'extérieur, quand ça commence à fonctionner. Donc, on finit par entendre sa voix devant soi. Ça arrive dans les stages que même parfois des gens se mettent à entendre leur voix parler à 50 cm devant. Ils disent « Ah, rendez-moi ma voix. » Je ne vous ai pas piqué votre voix, je n'ai pas pris ta voix. C'est simplement qu'on commence à entendre l'espace intérieur et l'espace extérieur séparés. Quand vous entendez comme ça, vous n'avez pas conscience de ces deux espaces-là parce qu'ils sont mélangés. C'est ce qui explique que quand vous enregistrez votre voix sur votre répondeur, que se passe-t-il quand vous réécoutez votre voix enregistrée? Alors, on ne la reconnaît pas et en conséquence, on ne l'aime pas. Ah oui. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous faites ce travail-là, mais quand même un certain temps et à haute dose, vous finirez par aimer votre voix enregistrée. Moi, ça m'a pris 10 ans. Bon courage. Enfin, j'en sais rien. Il n'y a pas longtemps que je le sais. Je m'en suis rendu compte. Un jour, j'avais une longue conversation qui est du style 1h30 au téléphone. Et puis, il fallait prendre des notes. Je dis, oh, j'ai pas envie de prendre des notes. Je vais tout enregistrer. Je branche le téléphone et l'ordinateur ensemble. Je mets tout. Et puis, je mets ça de côté. Et puis, plus tard, je réécoute. Je mets la machine en route. Et sur les premiers sons que j'entends de ma voix, je dis, ah, c'est ça ma voix? Et là, je dis, ouais. Elle me plaît. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Parce qu'en fait, j'ai pratiquement plus de différence entre l'écoute de ma voix en direct et de ma voix enregistrée. Parce qu'en fait, votre voix enregistrée, c'est ça. Ça, très peu. Ça, beaucoup. Comme les deux sont mélangés, quand vous entendez votre voix en direct, c'est ça beaucoup et ça très peu, c'est le contraire. Votre résonance masque votre timbre tant qu'il n'est pas entendu à l'extérieur. Pourquoi les gamins ont des voix qui sont très perçantes, criardes, et qu'on leur dit « Tais-toi, ça, j'en ai marre. Arrête de crier, parle moins fort. Plante-toi, je t'ai essayé. » Enfin, j'exagère, bien sûr. Et bien, justement, parce qu'eux, ils ont la voix complètement à l'extérieur, qu'ils entendent toutes les fréquences aiguës et qu'ils jouent avec, et que ça leur fait plaisir et que ça tonifie leur cortex cérébral et leur corps. Parce que le son, c'est de l'énergie. Et donc, ils peuvent se donner de l'énergie avec leur voix, avec leur son. Ce que nous, on ne sait plus faire ou moins faire. Donc, nous, on est plus dans la résonance. Eux, ils sont plus là. Et puis, vers 7 ou 8 ans, ils perdent ça. Et ils tombent dans leur résonance, comme tout le monde. Et ils commencent à entendre plus ça. Le mélange de l'intérieur et de l'extérieur. Et donc, à 7-8 ans, ils entendent encore quand même pas mal. En 5 minutes, on réactive. Les adolescents font déjà une demi-heure. Les adultes font des stages.
On pourrait ne pas tomber dans la boîte. On pourrait dire à 7 ans, allez, on fait une expérience sur. On essaye de. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que ça.
Il faut simplement qu'ils prennent conscience. Il faut leur faire entendre les harmoniques et les nommer. Une des raisons qui fait qu'ils perdent, c'est que ce n'est pas nommé par les adultes. Parce que les adultes n'entendent pas. Donc, dans les classes de formation musicale et un conservatoire, les enfants entendent mieux et plus que les profs, souvent. Ce qui est quand même bizarre. Enfin, ça, c'est mon discours un peu militant. Il faut sauver les oreilles des enfants, donc il faut rééduquer les profs. Non, si on leur fait entendre, si on joue avec les harmoniques et qu'on leur fait entendre, les enfants entendent très bien. Donc à partir du moment où ça a été entendu, et ils aiment ça, parce que ça les ramène à leur corps, parce que c'est aussi vibratoire, donc ça les ramène à leur schéma corporel, il y a plein de conséquences par rapport à ça. C'est se réapproprier une partie d'eux-mêmes, en fait. Sinon, ils la perdent. Quand j'ai commencé à entendre le son, j'avais quand même, je ne sais pas, près de 40 ans, pas loin, je ne me souviens plus. Quand j'ai commencé vraiment à entendre, ça disait maison, comme dans E.T. Maintenant, ça disait maison. Je disais, pourquoi ça dit maison? J'ai compris au bout d'un moment, je dis, oui, je suis en train de récupérer quelque chose qui est une partie de moi-même. Une fonction que j'avais perdue, parce que j'étais comme tous les adultes que je crois, c'est-à-dire que je n'entendais pas. J'étais musicien, prof, chanteur, chef de chœur et sourd. Alors évidemment, on n'est pas sourd, je caricature en disant ça. Je n'entendais pas la réalité, j'entendais culturellement. Vous commencez à faire le travail sur le son, vous commencez à entendre le réel du son. Ce qui n'est pas nos mémoires culturelles. Ce qu'on entend à travers nos mémoires, ce qu'on entend à travers le fait qu'on est vraiment sur les fréquences du son, ce n'est pas du tout la même chose. Y compris pour votre corps et votre cerveau. Donc c'est un travail qui touche à pas mal de choses, ça fait bouger beaucoup de choses. Donc sur le plan individuel, ça met en route cette boucle audiophonatoire qui fait que vous finirez par entendre vos fréquences, vos harmoniques devant vous, au bord des lèvres, dans le cœur. Et dans le travail du cœur, ça vous permet de vous mettre de manière plus consciente en relation avec les autres voix. Ce qui fait que les voix sonnent ensemble, ce sont les deux espaces qui ne sont pas entendus là. Ce n'est pas les notes. Les notes, c'est le GPS. Ça vous dit où ça va, combien de temps ça met, par où ça passe. C'est tout ce que ça fait. Tout le reste, le son, c'est cette partie-là qui n'est pas entendue de manière suffisamment précise pour nous en tant qu'adultes. Donc c'est votre résonance qui se met en relation avec la résonance des autres, qui crée la résonance collective. Et c'est vos harmoniques sur les voyelles des chants que vous chantez qui se mettent en relation. Votre timbre sur le texte chanté qui se met en relation avec le timbre des autres, qui crée la matière collective, qui crée une patte sonore qu'on est en train de sculpter avec le chant que vous faites. Donc on est complètement dans un autre mode de perception. On renverse complètement les perspectives. Travailler à partir du son ou à partir de la structure musicale n'est pas la même chose. Donc moi, ma spécialité, c'est ça, c'est vous faire entendre ça dans ce mode d'écoute qui est une espèce de révolution. En fait. J'appelle ça les rapports oreille-corps-voix. Quand vous travaillez avec un prof de chant, il travaille d'abord sur votre corps, système respiratoire, conscience et contrôle d'un certain nombre de zones musculaires. Et le problème des cours de chant, c'est que tant que vous n'avez pas refait la synthèse, tant que le corps et le cerveau n'ont pas refait la synthèse de tous les paramètres qui sont à contrôler, ben vous êtes en sur-contrôle et vous trouvez bancal, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on se dit, attends, il faut que je contrôle ça, comme ça. Quand c'est pas devenu complètement intégré et spontané, et ben on est. C'est pas ça, quoi. Alors que l'avantage de travailler sur le son, c'est qu'on arrête de se poser des questions, on écoute et ça se met en place. Le corps s'ajuste en fonction de ce que vous entendez. Le corps devient secondaire et adaptatif. Il n'est pas en premier. On n'est pas sur les mécaniques, on est sur le sensoriel. C'est pas la même porte d'entrée. Voilà. Donc on va passer par le global pour aller sur l'analytique. Qu'on ne fait pas dans le travail du chant ou pas beaucoup. Enfin, ça dépend des profs. Après, il y a toutes les graduations possibles entre les deux situations, mais on est quand même beaucoup plus sur les mécaniques traditionnellement dans l'enseignement du chant. Quoi. Des questions? Je parlerai de la suite du reste après. Donc on fait de la musique, mais en fait, on se construit en même temps, quoi, d'une certaine façon.